Les malades maigrissaient et pâlissaient tous. Mais avec les progrès du mal, les malades voyaient leur corps perdre toute humidité et leur peau, fortement desséchée, ressemblait absolument à du cuir et donnait l'impression qu'elle était plaquée sur les os. Extrait de la chronique de Procope de Césarée à propos de la famine qui frappe l'Italie au milieu du VIe siècle.
Les fenêtres de l'histoire avec Philippe Faureau.
Lors de notre dernière chronique, nous avions souligné que la dynastie ostrogothique, qui avait régné de manière assez prestigieuse à l'époque de Théodoric, connaissait des difficultés. Or, à Byzance, l'empereur Justinien a profité de ces difficultés pour essayer de réunifier à son profit et au profit de l'Empire byzantin la Méditerranée, et au centre de la Méditerranée, l'Italie était évidemment un territoire particulièrement convoité. Cultivé, maîtrisant le droit et les questions religieuses, l'empereur Justinien entreprend donc une politique de reconstitution de l'unité du bassin méditerranéen. À ses yeux, souveraineté byzantine et pouvoir d'origine divin se rassemblent en ce rêve impérial. Après avoir conclu une paix dite perpétuelle avec les Perses en 532, mais qui n'a de perpétuel que le nom, Justinien entame sa politique de reconquête. Son premier objectif est l'Afrique du Nord, et en 533, une armée commandée par Bélisaire débarque dans l'actuelle Tunisie et détruit le royaume des Vandales. C'est désormais l'Italie qui occupe l'esprit de Justinien. Débutées en juin 535, les guerres dites gothiques sont un moment très douloureux pour la péninsule italienne, dont nous souhaitons mettre en valeur les principaux épisodes militaires. Toujours commandés par Bélisaire, les Byzantins débarquent en Sicile, où ils ne rencontrent que peu de résistance, si ce n'est à Palerme. Puis les forces armées impériales passent en Calabre, remontent la côte jusqu'à Naples, qui tombe après une vingtaine de jours de siège en octobre 536, suivi par un saccage de la vieille cité parthénopéenne, événement qui écorne singulièrement le discours officiel byzantin d'une guerre de libération vis-à-vis des Ostrogoths. Ces revers provoquent la chute du faible roi ostrogoth Théodate, au profit de Vitiges qui s'avère vite un adversaire beaucoup plus redoutable. Le nouveau souverain estime qu'il n'a pas les moyens de défendre Rome. Aussi les Byzantins entrent dans la ville éternelle le 9 décembre 536. Craignant à juste titre un retour des Ostrogoths, Bélisaire fait renforcer les défenses de la muraille aurélienne qui entoure Rome sur 19 kilomètres. En février 537, les Ostrogoths viennent mettre à nouveau le siège devant l'ancienne capitale impériale. Celui-ci dure un peu plus d'un an. Au même moment, les forces byzantines, commandées par Jean le Sanguinaire, tout un programme, débarquent dans le nord, dépouillent, ravagent le Picénium, qui correspond à peu près à l'actuelle région des Marches, atteignent Rimini au début de 538 et se rapprochent dangereusement de Ravenne, capitale ostrogothique. Sans doute atteints par une épidémie, les Ostrogoths lèvent le siège de Rome. La guerre n'épargne pas non plus le nord de la péninsule. En 539, une garnison byzantine s'installe à Milan. La ville, comme Rome, connaît un terrible siège de la part des Ostrogoths, épaulés par les Burgondes, qui se termine par un massacre de la population masculine et une réduction en esclavage des femmes et des enfants. Dans le même temps, les troupes de Bélisaire arrivent devant Ravenne, qui se rend en mai 540. Le général Bélisaire est alors rappelé à Byzance par Justinien, qui le soupçonne d'avoir des ambitions royales en Italie. Si Vitiges a été capturé et Ravenne occupé, cela ne signifie malheureusement pas pour les populations de la péninsule la fin du conflit. Réunis à Pavie, les principaux nobles ostrogoths désignent Totila comme nouveau souverain. À la différence de Vitiges, celui-ci s'intéresse à doter les Ostrogoths d'une flotte qui puisse ainsi gêner les communications maritimes entre les forces byzantines installées en Italie et l'Empire d'Orient. Il bat à quelques reprises les troupes impériales à Faenza en 542 et va s'emparer de Bénévent et de Naples. Progressivement, les troupes byzantines se rendent maîtres de la péninsule. Mais à quel prix ? L'historien Procope de Césarée, auteur d'une histoire des guerres gothiques, a laissé bien des témoignages des malheurs de la guerre, et nous avons lu tout à l'heure un extrait à propos de la famine qui ravage la péninsule. De grandes villes sont très durement touchées. Milan est à relever totalement. Rome a perdu une grande partie de sa population. Estimée à environ 500 000 habitants avant la guerre, la population romaine n'est plus que de 50 000 à la fin du conflit. Certes, il y a les pertes liées au combat à prendre en compte, mais ce sont surtout les déportations de la population romaine vers la Campanie ordonnées par Totila et la fuite d'une cité devenue un terrible enjeu de la guerre qui expliquent cet effondrement démographique. Seuls 14 aqueducs de la ville fonctionnent, puisque seule l'Aqua Traiana continue à amener de l'eau dans la ville éternelle. Des quartiers entiers de Rome sont abandonnés et ce qu'il reste de la population romaine se regroupe autour de Saint-Jean-de-Latran, de Saint-Pierre au Vatican et dans la zone du Champ de Mars.
Gladius Romae sunt, Belisarius.
Désormais, Justinien est en mesure de réorganiser l'Italie sur le plan administratif. Les îles sont détachées de l'ensemble italien, la Sicile devient une province indépendante, alors que la Sardaigne et la Corse sont rattachées à la province d'Afrique. Un préfet du prétoire est installé à Rome, souvent issu de milieux byzantins. Une zone de défense militaire est organisée au nord de la péninsule dans la perspective d'agressions venues du nord des Alpes. En 569, ce sera l'empereur Justin II qui installe un gouverneur militaire, un exarque, à Ravenne, qui représente personnellement le souverain. D'autre part, malgré les malheurs de la guerre, la période laisse cependant un héritage artistique hors du commun, tout particulièrement à Ravenne, capitale du pouvoir byzantin, où se déploie la magnificence du pouvoir impérial. L'église San Vitale en est un exemple significatif, synthèse de la période paléochrétienne selon la formule de l'historienne de l'art Judith Hérin. Débutée en 529 par le pouvoir ostrogoth et consacrée en 547 sous la souveraineté byzantine, l'édifice dispose d'un ensemble de mosaïques extraordinaires, financées par le souverain, mais également par un riche banquier grec, Julien l'Argentier. Parmi les mosaïques, les processions impériales qui représentent l'empereur Justinien, l'impératrice Théodora. La chronologie la plus probable de ces mosaïques est une prise de décision après la prise de Ravenne par Bélisaire en mai 540. D'autre part, il y a également la superbe basilique Sainte-Sophie de Constantinople qui sera aussi rénovée par l'empereur Justinien. Et véritablement, il y a là un déploiement extraordinaire d'un art qui va fortement influencer tout l'art que nous retrouvons aussi des mosaïques à Rome. Que l'on songe, par exemple, aux mosaïques de Sainte Pudentienne, mais également à Venise de Saint-Marc, de Sainte Praxède, toujours à Rome, de la cathédrale de Montréal en Sicile, à peu de distance de Palerme, avec son magnifique Christ Pantocrator. Il y a eu, effectivement, une véritable légitimité artistique qu'a voulu se donner le pouvoir byzantin. Ce pouvoir byzantin, il n'a certes pas réunifié la totalité du bassin méditerranéen. Comme je l'indiquais tout à l'heure, s'il a pu s'emparer de l'actuelle Tunisie pour en refaire une province d'Afrique, il a réussi certes à reconquérir l'Italie, nous avons vu à quel prix, il a réussi aussi à mettre les pieds dans le sud de l'Espagne, dans la province qui sera appelée plus tard l'Andalousie. Mais cette puissance byzantine va finalement durer peu de temps. En effet, en 565 meurt l'empereur Justinien. Et la péninsule va devoir faire face à un nouvel envahisseur qui va bouleverser ce qu'avait été l'Italie byzantine, c'est la pénétration des Lombards. En effet, en 569, à peu près 150 000 Lombards pénètrent en Italie. Que sait-on sur les origines de cette population ? Les historiens peuvent s'appuyer sur le livre du moine Paul Diacre qui nous fournit quelques informations sur les nouveaux venus dans la péninsule. Il semble bien qu'ils soient venus de la Suède méridionale. Entamant une migration, cette population est passée par la vallée de l'Elbe en Germanie, s'installe en Pannonie, ancienne province de l'Empire romain, qui est aujourd'hui située entre l'Autriche, la Hongrie, la Slovaquie, la Serbie et la Slovénie. C'est sans doute sous la pression des Avars, autre population dite barbare, que les Lombards apparaissent au nord de l'Italie au début des années 560. À la fin de la décennie, les Lombards entament la migration vers l'Italie et vont entamer une nouvelle période de l'histoire de la péninsule.